Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview. Aujourd'hui, au studio, nous recevons Christelle Fermont. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici pour nous parler de Créacris, une activité que vous avez créée depuis 3 ans et qui consiste donc à de la création picturale avec des techniques variées, peut-être, vous en parlerez. Et pour cela, est-ce que vous avez aussi des moments où on pourra découvrir vos œuvres par la suite lors d'expositions notamment?
Ah oui, 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 oui. Ben oui, j'ai créé Créacris il y a 3 ans et l'idée c'est de peindre pour les gens, mais j'ai aussi du coup des créations personnelles que j'expose. Donc là, il va y avoir une exposition à la ferme des Combes, c'est sur Piégros-Laclastre pendant 1 mois, là du 11 avril au 11 mai. Et je vais exposer aussi à Beaufort-sur-Gervanne du 25 au 26 mai. Donc, dans le cadre des artistes en Gervanne. Donc, j'essaye d'exposer, mais aussi de peindre à la demande.
Vous parliez donc de cette création picturale qui s'inspire de rencontres avec des personnes.
Oui.
Et ça consiste à quoi? À un entretien avec ces personnes? Ou alors, il y a aussi leur désir d'avoir une de vos créations, par exemple?
Alors, il y en a qui ont déjà des idées très précises de ce qu'ils veulent. Mais en général, les gens que je rencontre ne savent pas vraiment. C'est souvent pour des cadeaux, par exemple, ou dans le cadre d'entreprises. Ça peut être aussi pour fédérer une équipe, par exemple, pour créer une œuvre qui va être à l'accueil ou dans une salle de réunion. Donc, en général, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et moi, en fait, je les aide à trouver des idées qui leur correspondent. À mettre leur valeur en peinture, en quelque sorte. Donc, qui ils sont, qu'est-ce qui les représente le mieux? Ça peut être en lien avec leurs activités, avec leur parcours de vie, leur caractère, tout ce genre de choses. Et en fait, moi, je fais une première rencontre avec les gens qui dure 1 heure environ. Et ensuite, je fais des propositions. C'est-à-dire que je ne peux pas en un coup imaginer la meilleure toile. Donc, je fais des propositions avec des esquisses. Et à la deuxième rencontre, je leur présente les idées que j'ai eues, qu'est-ce qui m'a inspirée. J'ai un petit carnet où je prends des notes, où je fais des recherches. Et en général, je fais entre 3 et 4 propositions. Et on discute ensemble, on adapte, on peut imaginer une 4e ou 5e proposition ensemble qui peut être une fusion, une adaptation. Et après, je crée dans mon atelier.
Cet aspect de création sur commande rejoint un petit peu l'histoire de l'art, puisque les grands peintres, au travers de l'histoire, travaillaient sur commande avec une tarification à la surface de toile précise. Donc, vous allez quand même au-delà de cet aspect, matériel, mais l'importance pour vous, c'est cette rencontre avec les personnes. Il y a leur désir, mais aussi vous, il y a cette émotion dont vous percevez et que vous ressentez et qui sera peut-être facteur de cette création. Ça, c'est important pour vous?
Oui, c'est important parce que moi, j'aime bien les gens. J'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien écouter leurs histoires. En général, quand on commence à discuter, les gens ont souvent beaucoup de choses à raconter. Ça donne plein d'idées. Moi, j'ai les images qui me viennent directement. Et après, c'est aussi le challenge de poser ça sur la toile, c'est-à-dire quel matériau je vais utiliser. Je peux travailler sur des châssis, mais j'ai déjà aussi travaillé sur du bois, par exemple, sur du contreplaqué. J'utilise de l'acrylique, de l'aquarelle, de l'encre de Chine. Donc, c'est vraiment, en fait... Après, c'est du feeling. Hein, J'essaye. Après, d'un moment, il faut poser le cerveau et puis partir avec ses pinceaux et mettre les émotions sur la toile.
Vous disiez avoir commencé à peindre il y a une dizaine d'années environ. Aucune expérience antérieurement dans l'aspect de création artistique?
Alors je dessinais, en fait, j'ai toujours dessiné, ça a toujours été mon moyen d'expression. La peinture, c'est venu plus tard, parce qu'en fait, quand on veut mettre des couleurs, on ne peut pas le faire seul, il faut être guidé, parce que j'étais un peu perdue dans un magasin de peinture, je ne savais pas vers quoi aller. Donc j'ai commencé à prendre des cours à Créactif, auprès de Marie-Noëlle Brugerolles. Et elle enseigne toutes les techniques. On commence par l'aquarelle, qui est le plus exigeant. Et ensuite, petit à petit, on découvre plein de techniques différentes.
Cette technique, est-ce qu'elle s'affine par rapport à votre travail? Est-ce que vous avez une préférence, une prédilection?
Alors, j'avoue que l'acrylique, j'aime bien parce que je peux faire du relief avec. C'est vrai qu'on peut rajouter des choses, je mélange avec du sable, je peux y coller des choses, on peut revenir dessus plusieurs fois aussi. Donc j'aime bien l'acrylique, c'est un séchage qui est aussi rapide. Moi je travaille de façon assez vive parce que voilà, les émotions viennent et je peins assez vite. Du coup, l'acrylique c'est quand même ma préférée. Mais j'ai édité un livre récemment là, à l'encre de Chine, en illustration à l'encre de Chine. Ça me va bien aussi. Enfin, voilà.
Je reviens un peu sur votre activité antérieure au sein du SMRD, avec la rivière Drôme. Est-ce que pour vous, ça a aussi été une grande source d'inspiration de votre travail?
Alors en ce moment, oui. J'avoue qu'en ce moment, je suis assez attirée par les paysages de la Drôme. La rivière, c'est sa faune aussi, ça m'attire beaucoup. Pourtant, tant que j'étais au syndicat, je n'ai jamais réussi à la peindre. En fait, je pense que je devais être trop accrochée à son fonctionnement, à sa technique, à sa minéralité, sa vie... Et du coup, je n'arrivais pas à la représenter. Et depuis que j'ai quitté le syndicat, j'ai plus cette facilité, j'arrive à la voir avec plus de recul peut-être.
Cette période de travail avec la Drôme, est-ce qu'il y avait déjà une représentation qui commençait à se concrétiser dans vos créations, ne serait-ce que par la pensée ou l'envie?
Ben, l'envie, oui, elle était là, parce que quand on travaille pendant 15 ans dans un syndicat de rivière, on aime cette rivière, c'est sûr, c'est sûr. Après, l'idée de peindre et de créer, c'est venu progressivement, et j'avais participé à un projet en démarche participative pendant 3 ans au sein du syndicat, et c'est vrai que là, c'est les rencontres humaines aussi qui m'ont plu à travers ce métier. On rencontre énormément de gens, tous les acteurs locaux autour de l'eau sont tous passionnés, sont tous investis, et ça crée des choses passionnantes, oui.
L'habitant aussi, donc, est aussi un contact. C'est peut-être aussi ces personnes qui sont à vous demander vos créations plastiques.
Oui. Ah ben oui. J'ai des contacts avec pas mal de particuliers. Des professionnels aussi, ça dépend.
Quels sont les types de commandes que vous recevez couramment? Est-ce qu'il y a un sujet particulier ou alors un thème précis qui revient assez souvent?
Alors les sujets, les thèmes, non, justement, c'est vraiment très 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 varié. Et puis c'est moi qui amène aussi des thèmes, donc j'aime bien la variété et les challenges. Par contre, les sujets, c'est souvent des cadeaux en fait. Hein. Ça peut être des cadeaux de mariage. J'ai un couple qui est venu me voir, qui pour Noël dernier voulait s'offrir une toile de couple, par exemple. Donc j'ai fait aussi des toiles pour des professionnels, donc dans un cabinet de thérapie. Là, je vais peindre directement sur le mur à Oust. Dans le cabinet du podologue. Donc voilà, c'est des projets qui sont vraiment très variés en fait. Hein. Des départs à la retraite, plein de genres de sujets.
Quelles sont les représentations que l'on trouve sur vos tableaux, du figuratif, du paysage ou parfois même de l'abstraction?
Il y a de tout, parce que justement, en fait, comme j'essaye de faire quelque chose qui soit adapté aux besoins et aux valeurs de la personne, dans les propositions que je fais, je vais mettre de tout. Après, il y a des choses figuratives, mais j'aime bien aussi l'abstrait. C'est plus difficile quand on est sur un croquis de proposer de l'abstrait, mais en général, en discutant avec les gens, ils comprennent aussi sur quoi je veux aller, en fait.
C'est en même temps leur amener de la couleur dans leur intérieur également.
Oui, de la couleur, de la taille aussi. J'aime les grands formats. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est là où je m'exprime le mieux, quoi. Les grands formats, c'est un peu magique, ouais.
C'est-à-dire que vous peignez avec le geste, le corps même, dans le mouvement, pour impressionner la toile.
Ben avec le geste, oui, ça c'est sûr, oui. Oui. C'est vrai que les grands formats, c'est vraiment intéressant.
Les brosses ou les pinceaux que vous utilisez sont de taille très variable, de grandes brosses aux pinceaux les plus fins ?
Ben oui, j'utilise un peu de tout. J'ai même des pinceaux qui peuvent servir à faire des chantiers, en fait, hein, parce que pour que ça puisse rendre différemment, il faut des matières différentes, il faut des pinceaux différents. J'ai des pinceaux chinois aussi pour la peinture à l'encre de Chine. J'ai plein de sortes de choses, oui. Des fois, je travaille à l'éponge, des fois, je travaille avec les mains aussi.
Alors, vous avez une personne qui vous demande une peinture. Comment s'opère la mise en route de cette commande et de cette création ? Est-ce qu'il y a un dialogue qui construit, qui constitue l'idée et l'œuvre ?
Alors, en général, les gens ils me contactent beaucoup à travers mon site internet directement, où j'explique la méthode et tout ça. Donc ça marche bien, ou par les réseaux sociaux. Et ensuite, la première étape, c'est de rencontrer la personne pour recueillir en fait les éléments qui vont me permettre de faire des propositions. Donc, c'est des rencontres qui durent environ une heure. Et j'ai développé deux petits outils qui m'aident justement à construire un peu les idées. Donc, il y en a un qui est plutôt chronologique, où en fait, j'écoute les gens et je note les événements de leur vie ou de leur couple ou de leur projet de façon chronologique. Et je mets déjà les événements positifs plutôt vers le haut, les événements négatifs plutôt vers le bas. Et déjà, comme ça, je commence à voir des formes qui peuvent se dessiner. Et j'ai un autre outil qui est plus en forme de cercle, où en fait, au centre du cercle, je mets les valeurs intrinsèques, donc les caractéristiques, les choses vraiment de l'ordre du caractère de la personne ou les valeurs profondes. Et plus je m'éloigne du cercle, plus je vais mettre comment ça se traduit dans la vie au quotidien. Donc les activités, les lieux de prédilection. Et plus on s'éloigne, plus c'est abstrait. Donc ça va finir par des couleurs, des tonalités, pourquoi pas des musiques ou quoi que ce soit. Et avec ça, en fait, je vais regrouper les choses pour faire des cohérences et pouvoir proposer différentes solutions, en fait, différentes toiles qui vont émerger.
Vous parliez donc de cette méthode concernant les impressions positives ou négatives, mm-hmm. avec des valeurs ou plutôt en ascendante ou descendante.
Ouais.
Comment concrètement peut-on expliquer, pouvez-vous expliquer ce système
En fait, sur cette frise, les éléments qui sont dans la joie, dans le bonheur, je vais les placer plutôt vers le haut. Et les éléments qui sont plutôt dans la tristesse ou les épreuves de la vie, je vais les mettre plutôt vers le bas. Et du coup, en termes de chronologie, on va avoir des sortes de vagues qui vont se dessiner. Alors, il y a des gens qui vont être plus régulièrement vers le haut, d'autres plus vers le bas, d'autres qui vont avoir des parcours complètement chaotiques. Et rien que de le visualiser, les gens, ça les interpelle, en fait, parce qu'on n'a pas cette vision comme ça de ce que l'on peut vivre au quotidien et sur le long terme aussi, quoi. Parce que je commence dès le début, en fait, hein. Sur la genèse, si c'est pour un anniversaire, ça va être dès la naissance de la personne. Si c'est sur un projet, ça va être sur le démarrage du projet. Comment est-ce qu'il a démarré de suite avec les étoiles alignées, ou est-ce qu'il y a eu des difficultés, comment elles ont été surmontées, et après comment on va traduire ça sur une toile.
Votre travail se nourrit de beaucoup de thèmes de science également.
Oui, de recherche.
Que ce soit d'ailleurs rationnel ou parfois irrationnel également.
Oh, bah oui, il faut se laisser porter par tout ce qui peut arriver, oui. Oui, oui, tout à fait.
Et il y a parfois aussi de lâcher prise dans vos créations.
Bah, à un moment, il faut du lâcher prise parce que sinon, ça reste trop figé sur la toile. Pour qu'il y ait du mouvement, il faut qu'à un moment, il y ait un lâcher prise qui s'opère. Ouais. Qui n'est pas facile parce que bah, on se pose toujours la question de est-ce que ça va plaire. Puisque la personne qui a commandé, par définition, ne sait pas ce qu'on est en train de lui préparer. Donc il y a une prise de risque hein, des deux côtés. Hein. C'est-à-dire que la personne qui passe commande ne sait pas ce qu'elle va obtenir à la fin. Et moi, je ne sais pas non plus du tout vers quoi je vais. Mais d'expérience, en fait, j'ai pas vécu de déception. Parce qu'en fait, les gens, ils voient que ça a été construit pour eux et ils reconnaissent toutes les étapes de la construction. Et c'est vrai que ça, c'est un peu magique, ouais.
D'ailleurs, les personnes qui vous commandent vous indiquent peut-être même l'endroit où serait mise la toile ou le tableau ?
Ah ben oui, au départ, il faut que je sache où ça va être positionné, ne serait-ce que pour les dimensions et pour un peu l'ambiance, les couleurs qui vont être autour. Voilà, donc ça c'est le point de départ. Mais il s'est aussi trouvé que des toiles qui étaient prévues pour un endroit finissent ailleurs. Voilà, donc dans des endroits plus visibles aussi. Une toile qui était prévue pour une chambre qui, au final, s'est retrouvée dans un salon, plusieurs même d'ailleurs, qui, au final, se retrouve dans le salon et la pièce à vivre.
D'ailleurs, ça vous émeut, justement, de les voir, ces œuvres, au sein de particuliers ?
Ah ben, c'est magique, oui. Ouais, ouais. Et puis, comment les gens en parlent aussi, leur visage, quand ils reçoivent la toile, c'est formidable, oui. Alors à chaque fois, quand je remets la toile, je remets aussi, parce qu'ils la découvrent hein, du coup, hein, je remets aussi un courrier qui reprend toutes les étapes de la construction de la toile. Pourquoi on en est arrivé à cette toile ? Quels ont été les choix qui ont été faits ? Je mets au propre les diagrammes que j'ai réalisés avec eux. Ils les ont, ils peuvent les consulter, ils peuvent les montrer s'ils veulent expliquer la genèse de la toile. Ils reçoivent tout.
Lors de l'élaboration d'un tableau, suite aux entretiens, à ces rencontres, est-ce que parfois la personne qui commande désire voir l'œuvre en cours de conception et peut-être est-ce qu'elle peut remettre en avant certains éléments qu'elle voudrait peut-être plus apparents ou...
Non, il n'y a pas de demande de ce type-là. Par contre, dès le départ, moi, ce que j'indique, c'est qu'une toile, si elle ne plaît pas à la fin, la personne ne l'achète pas, en fait. Hein. Donc, s'il y a des retouches à faire, s'il y a des choses à corriger, c'est OK. Hein. Parce qu'à la fin, moi, mon but, c'est que la personne, elle soit super bien avec cette toile. C'est pas concevable pour moi qu'une toile ne soit pas appréciée. Le moment où la personne intervient, c'est au moment où je fais les propositions, où là, par contre, il y a libre cours pour adapter la toile finale, en fait. Mais après, une fois que je suis dans l'atelier, non, il n'y a pas d'intervention. Non.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5,
101.7,
FM.
Vous parliez du geste tout à l'heure, peut-être d'une énergie aussi. Oui. Est-ce que le fait d'avoir été au contact de cette rivière pendant plusieurs années, vous êtes peut-être imprégné de ce mouvement lent de l'écoulement de l'eau et peut-être d'amener cette énergie hein, sur la toile aussi?
Ben, l'énergie de la rivière, elle n'est pas forcément lente. Hein. Moi, de mon atelier, je l'entends, la Drôme. Donc c'est vrai que son bruit, suivant les jours, il va amener plus d'énergie que d'autres. Hein. Ça va dépendre de l'état dans lequel elle est. Et c'est vrai qu'on est tous perméables à son énergie, à elle. Ouais. Après, j'aime beaucoup les portraits. Donc, c'est vrai que je travaille beaucoup le portrait. Mais après, forcément, on évolue. Mais peut-être vers plus d'abstraction. Pouvoir plus faire des choses abstraites avec moins de retenue, en fait. Ça, par contre, c'est un progrès qui vient pas tout de suite.
Le portrait, c'est-à-dire que vous opérez donc des séances de dessin avec les personnes qui vous commandent, ou alors comment se passent justement ces conceptions de portraits ?
C'est plutôt à partir de photos. En fait, à partir d'une photo, je vais pouvoir faire un portrait et je ne vais pas forcément le faire en réalisme. Mais pour moi, pour faire passer des émotions, ça se joue avec des couleurs qui ne vont pas être les vraies couleurs. Mettre des couleurs qui vont faire passer l'émotion, les formes, c'est pareil. Ça veut... Pour les auditeurs, peut-être plutôt en matière un peu de cubisme, en fait. C'est-à-dire essayer, dans un visage, de faire ressortir les traits qui vont faire percevoir le caractère de la personne, justement, qui elle est derrière ce visage. Ça, c'est ça qui m'intéresse vraiment beaucoup, quoi. Ouais, ouais. Et donc, les couleurs aussi ne sont pas forcément les vraies couleurs.
Par rapport justement à l'histoire de l'art, est-ce que il y a les personnes qui vous commandent ont-elles un désir aussi en fonction d'un certain artiste, et est-ce qu'ils vous solliciteraient peut-être de s'inspirer de certaines techniques, ou alors vous avez votre propre nourriture artistique de l'histoire de l'art qui vous mettrait peut-être sur une direction de la manière de représenter, de peindre, de couvrir la toile, en somme.
Alors, je n'ai pas eu de demande spécifique pour m'adapter ou faire comme tel ou tel artiste. Par contre, moi, quand je fais mes recherches, oui, j'aime bien aller voir les styles des peintres de cette planète et essayer de proposer, que ce soit même des contemporains ou des peintres anciens. Mais suivant ce que j'ai envie de faire, je vais aller voir, suivant certaines techniques ou certains styles, pour proposer des choses aux personnes à qui je vais faire des propositions. Oui. Ouais, ouais.
Et vous allez parfois au musée ou des galeries d'art pour découvrir aussi l'artiste, mais aussi son aspect pictural et sa manière de travailler.
Oui, au musée, et puis je lis beaucoup aussi. Je lis beaucoup d'ouvrages sur la peinture en général. Ouais, je fais une petite chronique d'ailleurs le dimanche en général, où je propose de décortiquer un roman ou un livre qui a trait à la peinture.
Vous parlez d'une chronique, sous quel aspect ?
C'est sur les réseaux sociaux. Voilà.
Donc on peut être sur la page du site de l'émission, on pourra peut-être indiquer le lien de
ce... Oui, ouais, ouais. J'ai un blog aussi sur mon site internet où c'est tout répertorié.
L'autoportrait, est-ce que ça a été un sujet de travail pour vous aussi ?
Ah, je l'ai fait une fois, oui. Je l'ai fait une fois. C'est vrai que c'est intriguant d'essayer de se dessiner soi-même. Après, je l'ai fait d'après un miroir. Et du coup, ce n'est pas facile d'avoir une expression qui puisse être transcrite sur le papier.
Et puis, il y a une inversion de la personne aussi.
Exactement. Ce n'est pas tel qu'on me voit.
Vous disiez donc exposer prochainement, à partir du 11 avril,
oui.
Ça sera à Piégros-la-Classe.
À Piégros-la-Classe, oui, et à la ferme des Combes.
Voilà, et on pourra y découvrir un certain nombre d'œuvres.
Il y en aura une vingtaine, c'est l'exposition Petit Matin dans la Drôme, que j'avais exposée déjà sur Alex et sur Aubenasson à l'automne. Donc là, ce sera à Piégros-la-Clastre du 11 avril au 11 mai. Il y aura un vernissage le 11 avril au soir à 18h.
Et à la suite, une autre exposition.
Et une autre exposition les 25 et 26 mai. Donc là, on sera à Beaufort-sur-Gervanne. Et là, je serai sur le thème du cercle, là. Donc, c'est les artistes en Gervanne, en fait, qui exposent. Donc, je ne serai pas seule. Là, on sera une dizaine d'artistes sur Beaufort.
Vous échangez peut-être avec d'autres artistes sur votre méthode ou aussi les techniques
Ah ben, ils se permettent l'inspiration, puis ils permettent aussi de découvrir d'autres univers, en fait, hein, et d'autres façons de créer, d'autres techniques. C'est hyper enrichissant, en fait, de rencontrer d'autres artistes. Moi, je suis toujours impressionnée quand je rentre dans un atelier d'un artiste, de voir quelle est sa technique, comment il travaille, en particulier les gens qui travaillent avec de l'huile. Je travaille pas avec l'huile et c'est vrai que ça donne encore des rendus qui attirent. Hein. Je pense qu'il faudra que j'essaye aussi un jour, mais c'est vrai que chaque technique demande un apprentissage, demande beaucoup de travail à chaque fois, oui.
Un investissement également.
Hein, et un investissement, oui.
Notamment pour la couleur.
Oui.
D'ailleurs, il y a dans la technique de l'huile, il y a celle qui existe en tube, mais il y a également celle par le pigment, hein,
oui.
Qui s'achète, qui se prépare avec
c'est
beaucoup de temps,
oui.
et qui donne autrement de plus belles couleurs encore.
Oui, exactement. Oui. Ça, c'est un sacré travail, oui.
D'ailleurs, votre atelier vous permet de pouvoir expérimenter, de chercher, peut-être même d'opérer sur plusieurs œuvres dans le même temps et de passer de l'un à l'autre en fonction des humeurs ou des envies.
Ah oui, oui, oui. En général, j'ai 3-4 projets en cours, plus des illustrations aussi. Je navigue et quand j'arrive dans l'atelier, il y a une des toiles en cours qui va m'attirer plus qu'une autre sur ce moment-là, ouais. Ouais, ouais. Et puis des fois, j'arrive et j'en prends une neuve et je pars directement sur une nouvelle idée.
Et puis l'apprentissage, lui, continue hein, tout au long de la vie.
Hein. Ouais. Il faut travailler, il faut pratiquer.
Et d'ailleurs... En dehors de ces commandes auprès de particuliers, est-ce que vous opérez, vous, par vous-même, des envies de représentation ?
Ah ben oui, c'est comme ça que je fais des expos, du coup. Les expositions que je fais, c'est par rapport à des envies. Petit matin dans la Drôme, par exemple. Donc le matin, c'est un chien aussi, avec un chapeau sur le A. Et un matin, j'étais au bar de Saillant et il y avait un petit chien qui était assis sur une chaise devant une table. Et j'ai pris une photo rapidement, mais vraiment qui était faite pour le souvenir, en fait. Et j'ai peint ce petit chien en grand format sur ce bar. C'est un peu style Hopper, je ne sais pas si vous voyez, avec des grands aplats. Et après, je me suis dit, mais en fait, ce petit chien qui regarde le monde, c'est magique. Et j'ai fait plein d'autres toiles derrière avec des petits chiens.
La lumière d'Hopper, ce soleil couchant souvent, ou la nuit, pour vous, c'est aussi une vision, un aspect de, comment on appelle ça, de temporalité qui vous touche également.
Ah ben oui, Hopper ou plein d'autres artistes, en fait, chacun... à sa façon de vous emmener dans son univers. Hopper, c'est quelque chose de particulièrement doux. C'est des moments suspendus, c'est incroyable. Après, vous prenez un autre artiste, type Turner, là, vous êtes emmené dans la tempête, le tumulte. Ça peut être aussi un coucher de soleil, mais il va être autrement plus énergétique, en fait. Hein. Donc c'est ça que j'aime bien à travers tous les styles. Et c'est d'essayer de prendre le style qui va le mieux faire rendre l'émotion que je veux faire traverser. Quoi.
Et la lumière est un facteur essentiel aussi dans votre travail.
Oui.
Vous la faites transparaître au travers de sujets. Hein. Mais pour vous, l'important, c'est la lumière qui s'en dégage de ce que vous créez.
Ah ben la lumière, oui, c'est super important. C'est les sombres et les clairs qu'il faut placer au bon endroit, oui, c'est sûr. Oui. Oui, oui.
Il y a des peintres qui vous ont particulièrement touché, au-delà de Hopper, par exemple.
Moi, il y a une peintre contemporaine que j'aime beaucoup, c'est Fabienne Verdier. Je ne sais pas si c'est une Française qui a fait ses études. Elle a suivi les calligraphes en Chine pendant une quinzaine d'années. Et du coup, elle a une peinture style calligraphie, mais sur des formats énormes. Donc, elle travaille beaucoup ses fonds. Et après, elle travaille avec des pinceaux, avec du crin de cheval, avec des choses phénoménales qui sont suspendues au plafond. Elle a un geste et un travail incroyable. J'aime beaucoup ses couleurs.
Je crois connaître son travail,
ouais.
Où elle accroche ses gros pinceaux,
ouais,
pour
ça.
Pouvoir les
manipuler, chargés d'encre de Chine sur des toiles énormes.
Voilà, sur une feuille déposée au sol. Hein.
Ouais, c'est ça. Et elle, au-delà de sa technique, c'est aussi son histoire que je trouve incroyable. D'être partie étudier auprès des grands calligraphes chinois à l'époque où c'était encore bien censuré là-bas, c'est incroyable. Ouais.
Quel est le sens de cette création de votre création par rapport à ce que vous représentez? Est-ce que vous laissez passer une idée, un sentiment?
Ben c'est le but, en fait. J'essaye à travers mes toiles que les gens retrouvent l'état d'esprit dans lequel ils sont, en fait. Qu'ils retrouvent leurs humeurs, leur caractère, que ça puisse transparaître à travers la toile. C'est pour ça que je fais beaucoup de recherches aussi et que je m'imprègne de tout ça. Et quand on parle, par exemple, de peintre, moi, une toile comme ça, si je n'ai pas l'histoire de la personne derrière, c'est difficile d'interpréter une toile juste comme ça. Il faut avoir un petit peu le contexte de la personne. Et là, de suite, il y a des choses qui se révèlent. Prenez des toiles de Van Gogh, son histoire, elle est incroyable. Toulouse-Lautrec, c'est pareil. C'est ça derrière qu'on voit à travers leurs toiles. Et moi, j'essaye de faire ça pour les gens, du coup. C'est-à-dire que leur histoire, ce qu'ils ont vécu, puisse se retrouver sur une toile et que ça les touche.
La technique que vous pratiquez consiste aussi de la construction du châssis même, ou de l'entoilage du châssis en fonction des commandes, ou alors est-ce que vous avez des châssis déjà préparés?
Alors pour l'instant, j'ai pas eu besoin d'en fabriquer moi-même, sauf quand je travaille sur autre chose que des châssis. Donc si je travaille sur du bois ou du contreplaqué, ou sur j'ai travaillé même sur un carom, c'est un jeu indien là, que j'ai transformé. Donc là, je vais interpréter une autre matière. Donc voilà, quand je suis sur toile, jusque-là, je n'ai pas eu besoin de créer mes châssis pour l'instant. J'ai toujours eu des formats qui étaient déjà prêts.
Et
Je chine aussi beaucoup, par contre. C'est-à-dire que dans les brocantes, je vais récupérer des cadres, des encadrements. Et du coup, j'essaie de trouver les toiles adaptées à ces cadres. Et c'est rigolo parce que des fois, je fais la démarche inverse. C'est-à-dire que je tombe sur un cadre qui me plaît et je vais essayer d'imaginer qu'est-ce qui pourrait être dedans, quoi. C'est comme ça que j'avais fait des trois becs en forme de mosaïque un peu, dans un cadre très, très doré. Donc j'ai fait le contraste entre ces trois becs en forme de mosaïque, avec un peu comme un vitrail en fait, entouré de ce cadre ancien très, très chargé en dorure.
Christelle Fermont, merci beaucoup en tout cas
de
nous avoir parlé de Créacrice. Donc il y a un site internet pour découvrir ce travail.
Oui.
On indiquera l'adresse sur la page de l'émission. Et puis
merci.
Donc rappelons donc ces expositions qui ont lieu en avril à Piégros-Laglastre, à la Galerie des Combes, hein, c'est ça?
C'est ça, la ferme des Combes.
La musique aussi, vous travaillez avec de la musique ou alors vous êtes dans un silence?
Non, je me mets de la musique.
Est-ce que vous auriez un morceau de musique à indiquer pour mettre à la fin de l'émission?
En fait, je mets la radio. Ah si, du Merkan Dede. Vous connaissez ? C'est un musicien turc.
Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Merci à vous.
Thank you.